Voilà, bonjour à tous. Est-ce qu'il y a une église qui est venue dans ce lieu ce matin pour louer Jésus ? Oui. Alors à gauche, là, sur ma gauche, il y a des gens qui sont venus pour louer Jésus. Est-ce qu'il y a une église qui est venue pour louer Jésus dans ce lieu ? Amen. Je voudrais vous inviter à faire quelque chose de particulier ce matin. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble pour demander à Dieu ça, une faveur particulière sur cette célébration ? On proclame qu'il est un Dieu puissant. Mais on veut lui demander de venir agir puissamment dans nos vies, dans nos situations. On va le chanter tout à l'heure, Dieu est puissant, mais je voudrais vous inviter à élever la voix tous ensemble. Et on veut s'attendre à celui qui est ressuscité, qui est vivant aujourd'hui, qui intervient encore dans les situations. Est-ce qu'on peut élever la voix tous ensemble ce matin et demander à Dieu d'intervenir ? Père éternel, sommes heureux ce matin d'être rassemblés en ton nom. Nous ne le faisons pas par habitude, Jésus, mais nous sommes venus louer le Dieu vivant et vrai, celui qui intervient dans les vies encore aujourd'hui, celui qui est capable de changer des circonstances, celui qui est capable d'amener des choses mortes à l'existence, ce Dieu qui permet à un malade d'être guéri, ce Dieu qui permet à des situations de coupe brisées d'être restaurées. C'est ce Dieu-là que nous voulons louer ce matin, ce Dieu qui n'a pas hésité à offrir sa propre vie à la croix pour nous sauver de notre orgueil et de notre péché. C'est toi que nous voulons inviter dans ce lieu ce matin. Alors sois élevé, Père. On veut le chanter de tout notre cœur. Tu es le Dieu puissant au milieu de nous ce matin.
Seigneur Jésus, te louer parce que tu es présent dans les difficultés. Si vous avez quelque chose à dire au Seigneur ce matin, si vous passez des périodes difficiles, venez au pied de la croix, dites-lui, épanchez votre cœur, mais dites-lui merci pour ton amour, merci pour ta grandeur, ta grâce que tu as fait dans ma vie, merci pour ton amour.
Tu grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie.
Soumettre à l'Église cette pensée. Dieu est le fidèle. Dieu est non seulement le Tout-Puissant, mais il est aussi le fidèle. Dès le jardin d'Éden, où l'homme a péché, Dieu a manifesté sa fidélité envers lui, en le sortant de la situation où il était. Et le plus grand acte d'amour de notre Dieu, de notre Père, se trouve à la croix, où son propre Fils est mort pour nos péchés. Et c'est là tout l'amour que Dieu a manifesté. Mais bien plus, Dieu a aussi manifesté sa puissance en ressuscitant Jésus des morts. Alors Église, ne te décourage pas. Regarde à ton Dieu. Non seulement il est mort pour toi, mais il te manifeste sa fidélité, son amour, sa toute puissance, en montrant au tombeau combien il est grand, combien il est puissant. Alors tourne les regards vers lui. Ne regarde pas vers toi et tes circonstances. Ne regarde pas vers toi, mais regarde vers lui, car il est le Tout-Puissant. Il est amour, il est tout-puissant, il est fidèle.
Je ne craindrai rien parce qu'il est avec moi, il est avec nous. On va le reprendre ensemble. Je ne craindrai rien, tu es avec moi, tu es avec moi, Seigneur. Tu es avec moi, je ne craindrai rien, tu es avec moi.
Cette prière au Seigneur. Déclarez-le.
Tu es avec moi, je ne craindrai rien. Tu es avec moi, Seigneur.
Encore un peu plus fort.
Tu es avec moi, je ne craindrai rien. Oui, tu es avec moi, Seigneur.
Déclarez-le.
Tu es avec moi.
Cet amour de Dieu depuis tout à l'heure, on chante cet amour du Père. Mais toi, dans ton cœur, tu as un problème avec cet amour du Père parce que tu as du mal à comprendre comment cet amour peut te saisir alors que ton propre Père t'a fait des choses qui ne sont pas dignes d'être un Père. Et du coup, tu as du mal avec cet amour du Père. Le Seigneur te dit ce matin qu'il sait ce par quoi tu es traversé. Et il veut te faire découvrir et expérimenter cet amour du Père. Ce Père parfait, pas à l'image de celui qui a fait des choses qui ne sont pas dignes, qui ne sont pas bonnes, qui t'ont été nocives, qui ont abîmé l'image que tu as de toi-même. Le Seigneur aujourd'hui veut te faire découvrir l'amour du Père parfait, celui qui veut vraiment prendre soin de ta vie. Il va cheminer avec toi, t'inviter à apprendre à lui faire confiance pas à pas. N'aie pas peur de l'amour du Père céleste. Il t'aime et il veut diriger ta vie. Il sait ce par quoi tu es passé, mais il veut te reconstruire, t'accompagner et t'aider. Il est avec toi. Il est ton rocher.
On va le chanter ensemble. Que Jésus-Christ est notre rocher.
pour toujours son royaume.
Il est digne d'être applaudi, il est digne d'être loué et on est heureux encore ce matin d'être ensemble pour chercher la face de Jésus. Quelques annonces. Alors je sais qu'on n'a plus de parking mais il y a quelqu'un qui est venu en voiture ce matin et visiblement a décidé de repartir à pied puisqu'il a laissé ses clés quelque part dans la salle. Donc si tu es propriétaire d'une voiture et que tu t'aperçois que tu n'as plus de clés dans ton sac, tu vas au point d'accueil à la fin de la célébration et tu pourras les récupérer. Est-ce qu'on s'est réjoui le mois dernier avec ces 10 baptêmes qu'on a eus? Alors, il y en a au moins quelques-uns qui sont contents de voir des gens qui vivent quelque chose avec Jésus. Est-ce qu'on s'est réjoui? Est-ce qu'on se réjouit aussi parce qu'on aura encore un baptême dans quelques semaines? Yes? Tout ça, c'est possible grâce à vous. C'est possible grâce à votre générosité. C'est possible grâce à vos talents, vos dons qui sont donnés en bénévolat à l'église, mais également aussi à vos finances que vous partagez pour qu'on puisse avoir ce type de rassemblement. Donc l'église, on veut vraiment vous remercier, toute l'équipe pastorale, le conseil d'église, le conseil spirituel et le conseil d'administration pour votre générosité. Et si vous voulez continuer de nous aider, nous soutenir, il y a 3 moyens de le faire. Vous pouvez nous soutenir avec des troncs à la sortie de la salle de célébration. Vous pouvez nous soutenir via le site internet. Vous pouvez également nous soutenir via des RIB qui sont au point accueil si vous le souhaitez. Qui aime aller dans la rue partager sa foi dans cette salle? Ah, il y en a quelques-uns, mais c'est normal. Si vous avez à cœur d'aller dans la rue, de partager votre foi, d'aller échanger avec des gens, prendre connaissance, on vous invite le samedi 24 juin à 8h30 au Lumignon, donc au 30 rue Tite-Live à Königshofen, avec tout un groupe qui va dans la rue pour partager sa foi, pour aller échanger avec les gens. Si vous avez le cœur, vous avez rendez-vous à 8h30 ce jour-là, vous aurez un petit déjeuner, vous allez prier ensemble, vous encourager, et puis ensuite partir sur le quartier de Königshofen pour parler de la bonne nouvelle, de la grâce de Jésus. Avant la célébration de baptême du mois de juillet, on a une autre célébration. Il y a quelques semaines, les enfants nous ont conduits dans un temps de célébration de Jésus. Ils ont partagé un petit peu autour de l'enfance, c'est ce qu'ils ont vécu. On a la chance et la joie la semaine prochaine d'avoir un culte avec les ados. Est-ce qu'il y a des ados encore dans la salle ou ils sont déjà partis? Ils sont déjà partis, il y en a un quand même qui lève la main. En tout cas, ils ont vécu des choses de fou en allant à Echo, à ce rassemblement, vous savez, où il y avait plus de 6500 jeunes de toute la France venus pour vivre quelque chose avec Jésus. Eh bien, ils vont conduire ce temps de célébration avec Pierre Samuel et toute une équipe, la prochaine célébration de dimanche. Mais on va pouvoir aussi entendre ce qui se passe dans la vie de nos jeunes. Est-ce qu'il y a une église qui prie pour ces jeunes ici? Est-ce qu'il y a une église qui prie pour qu'il se passe quelque chose pour notre génération? Alors que les ténèbres sont en train de s'épaissir. On a besoin de refléter la lumière. Et nos jeunes sont au cœur de leur génération. Et Dieu veut les qualifier, Dieu veut les utiliser, Dieu veut les employer pour que sa grâce soit annoncée. Alors on veut vraiment profiter de ce temps de dimanche prochain pour célébrer avec les ados ce que Dieu fait pour notre jeune génération. Une dernière annonce, je change de papier. Le PowerPoint va s'afficher. On redémarre une session de l'Institut de théologie par extension. Donc des cours bibliques ici à l'EPI. L'objectif, c'est que ce n'est pas vous qui allez à l'école biblique, c'est l'école biblique qui vient à vous. Alors, c'est quoi Instead? Donc, c'est des temps où on va étudier chacun personnellement la Bible avec un manuel, un fascicule. Il y aura tous des outils et de la méthode qui va vous être communiquée pour apprendre à étudier la Bible, pour creuser l'écriture. Et donc c'est un institut de théologie chez soi, mais où en plus on se rassemble tous les 15 jours en groupe ici à l'EPI pour échanger et partager le fruit de vos réflexions personnelles. Donc ça se passe comment ? Il y a 4 livres pour la formation. La première année c'est de la théologie pratique, c'est la formation du disciple, son cœur, comment suivre Jésus dans un service fidèle avec des aspects très pratiques. La deuxième année c'est la formation du disciple numéro 2 qui va toucher à tous des sujets de théologie systématique sur qui est Christ. C'est quoi le retour de Jésus? C'est quoi les anges? C'est quoi les démons? Tout ce que la Bible enseigne sur des grands sujets, c'est pendant la deuxième année. La troisième année, c'est un survol de tout l'Ancien Testament. Vous savez, des fois, quand vous vous grattez la tête en lisant les prophètes, en disant « mais je comprends rien », un coup, il parle de tel endroit, puis juste le verset d'après, il est ailleurs. On va vous aider à vous faire les ponts avec l'histoire du peuple d'Israël, citée dans les livres... dans les livres des rois, par exemple, et des chroniques. Donc, tout un survol de l'Ancien Testament, la troisième année, et la dernière année, c'est le survol du Nouveau Testament, qu'on connaît plus, mais là, on va apprendre à le connaître mieux, tous ensemble. Donc ça, c'est les livres. C'est pour qui ? Pour qui est réservée cette formation ? Ben, tous ceux qui ont soif, qui se posent la question de dire, mais il est temps que je creuse un peu ma Bible. Il est temps que je passe un peu plus de temps à essayer de voir qu'est-ce que Dieu veut me communiquer et puis comment il veut se servir de moi. Donc c'est tous ceux qui ont à cœur d'étudier la Bible de manière personnelle et en groupe. Et elle est réservée à des gens qui sont engagés dans l'Église et qui se sont déjà fait baptiser, qui sont déjà en marche avec Jésus. Ensuite, comment ? Donc on l'a dit, une étude quotidienne de la Bible. Chaque jour, vous pouvez travailler à peu près 30 minutes à la maison. Et on se rencontre tous les 15 jours pour échanger ensemble. Bon, il y a une petite interrogation, mais rassurez-vous, jamais personne n'a échoué. Donc il n'y a rien de compliqué, mais c'est juste de vérifier que vous avez pris le temps d'étudier la leçon. Ensuite, tu peux aller à la slide qui suit. Donc on l'a dit, 4 livres sur 4 thématiques. Donc cette formation, elle a un coût. Elle coûte 220€ sur les 4 ans. La première année, c'est 70€. Puis ensuite, c'est 50€ par livre, puisque la première année, il y a les frais d'inscription étudiants. Et c'est pour un groupe de 10 personnes maximum, puisque le but est de faciliter les échanges. Vous savez, à l'EPI, on croit à une théologie verticale, l'importance de connaître Jésus, mais de le vivre en relation, en koinonia, en groupe. On n'a pas arrêté de vous rabâcher ça cette année, mais c'est plus facile dans des petits groupes où on peut échanger. Et pendant ce temps-là, ça va vous apprendre aussi à vous connaître, parce que généralement à Insté, il y a des gens qui viennent au début, ils ne se connaissent pas, puis au bout de 4 ans, on a vécu des choses ensemble. On a prié ensemble pour des situations, des choses de vie. Donc si vous avez envie de connecter avec des frères et sœurs et en même temps de creuser l'écriture, Insté, c'est pour vous. Et les inscriptions, donc vous pouvez encore vous inscrire les deux prochains dimanches pour une début de formation en septembre-octobre lorsqu'on aura reçu le matériel. Donc si vous êtes intéressé, à la fin de la célébration, vous allez au point accueil, vous mettez cours biblique et on vous appellera dès la semaine prochaine pour vous expliquer tout plus en profondeur. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble ? On va maintenant demander à Dieu aussi de nous parler par sa parole. Mathieu, si tu peux t'approcher. On va prier maintenant pour ce que Dieu a mis sur le cœur de Mathieu. Vous savez, on est une église qui croit que Dieu parle encore aujourd'hui, qui se sert de la parole, mais qui conduit aussi ses serviteurs. Il dépose des choses sur leur cœur. Et vraiment, je prie pour qu'une parole d'onction soit sur Mathieu ce matin. Je prie, Seigneur, pour des cœurs préparés, des cœurs qui s'ouvrent ce matin à ta parole. Que ta vie jaillisse, c'est notre prière ce matin. On veut être à ton écoute, Jésus, parce que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Où est-ce qu'on pourrait chercher des solutions dans ce monde si ce n'est à toi, Jésus ? Alors conduis ton serviteur, Père, dans le nom puissant de Jésus. Et ceux qui sont d'accord avec ça disent un grand Amen.
Amen. Vous pouvez prendre place. Bonjour à chacune et à chacun. Bienvenue à l'église de l'EPI. Pour toutes les personnes qui nous rejoignent en ligne ou qui sont là pour les premières fois ou la première fois, on vous souhaite une chaleureuse bienvenue dans la fournaise de la présence de Dieu de l'EPI. Hein ? Très heureux d'être avec vous ce matin et de pouvoir partager une thématique qui, j'en suis convaincu, va toucher plus de 98% des gens dans ce lieu. Les 2% restants, c'est juste qu'ils ne le savaient pas. Quand l'amour de Dieu ne va pas toujours dans mon sens. Sam Harris, c'est un philosophe, c'est un auteur, un conférencier, un neuroscientifique américain. Il a beaucoup étudié et ses travaux portaient sur la religion, la spiritualité et tout ce qui concerne l'éthique, et notamment l'éthique chrétienne. Pourquoi il s'est intéressé à ces domaines d'études ? Parce que Sam Harris se revendique athée et est l'un des plus populaires athées, plus influents athées depuis 2000, de par ses podcasts, de par ses livres, de par les vidéos qu'il fait, de par tout ce qu'il va véhiculer. Il est considéré comme l'un des athées les plus influents dans notre société d'aujourd'hui. Et voilà ce qu'il va dire. Si Dieu existait vraiment, il devrait être tenu responsable des souffrances inutiles et de l'injustice dans le monde. Les chrétiens prétendent que Dieu est bon et tout-puissant, mais cela semble contradictoire avec la réalité que nous observons. En gros, si Dieu est amour, pourquoi y a-t-il autant de souffrances dans ce monde ? Un petit sondage ce matin. Qui a déjà eu un échange avec un membre de sa famille ou avec quelqu'un au café et à un moment donné, en échangeant un peu sur la foi, la personne lui dit « Ouais, mais si Dieu est amour, pourquoi tant de souffrances ?» Faisons un petit sondage. Qui a déjà... Ah, je vous avais dit qu'on était à 98%. Si Dieu est amour, pourquoi Dieu ne répond pas à mes prières ? Si Dieu est amour... Pourquoi ces drames dans les faits divers ? Dernièrement, je pensais à Annecy, et il y en a tellement d'autres. Et si vous avez déjà eu cette réflexion, de telles réflexions, laissez-moi vous dire ceci, vous n'êtes pas bizarre. Et si vous êtes chrétien, chrétienne, disciple de Jésus, et que vous vous êtes posé cette question, ou que vous vous posez cette question maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose, vous n'êtes pas une mauvaise chrétienne. Vous n'êtes pas un mauvais chrétien. Vous faites partie de cette nuée de chrétiens qui ont parfois du mal à réconcilier l'amour de Dieu avec la beauté et la violence de la vie. Est-ce que c'est normal de douter ? Est-ce que c'est normal de se poser des questions sur l'amour de Dieu ? Est-ce que c'est normal de vivre comme si l'amour de Dieu ne vient pas toujours dans mon sens ? À en croire la Bible ? Oui. Et la première des choses que j'aimerais vous soumettre et partager avec vous, c'est premièrement que l'amour de Dieu ne semble pas toujours aller dans le sens des croyants et surtout dans la Bible. Paradoxal, n'est-ce pas ? Prenons l'exemple de Job. La Bible dit de Job que Dieu lui rend témoignage que c'est un croyant fervent. Pour Dieu, il n'y a pas de croyant plus fervent, plus concret, plus consacré que Job. Tout ce que Job fait lui réussit. Vivre sa foi lui réussit. Il est en bénédiction aux gens autour de lui. Et que se passe-t-il ? Job va absolument tout perdre. Pas juste l'argent. Perdre des relations qui tenaient chères à son cœur, des relations familiales. Perdre même la relation qui était le plus important pour elle selon lui, la relation à Dieu. Quand vous lisez le livre de Job, vous rendrez compte que à un moment donné, il fait des prières à Dieu et il a l'impression que Dieu ne lui répond pas, Et puis il pense que Dieu lui répond à travers d'amis qui viennent pour l'encourager dans sa foi. Et ses amis vont le défoncer dans sa foi. Malgré tout cela, malgré sa douleur, malgré sa confusion, Job continue de croire en Dieu. Prenons l'exemple de Joseph. Là aussi, il y a un parcours de vie qui est vraiment fort, qui est atypique. Joseph va être vendu non pas par des ennemis militaires, Joseph va être vendu par son propre sang, par ses frères. Joseph vient d'une famille de croyants. Les parents sont croyants, les arrière-grands-pères, grand-mères sont grands-parents. Ses parents sont croyants, ses grands-parents sont croyants. Et ses arrière-grands-parents sont croyants. Tu couperas ça au YouTube, hein ? Dans la famille de Joseph, il y a la foi, il y a les miracles. Et c'est une famille qui a une destinée. On aime bien ce mot-là, mais la destinée de la famille des patriarches, croyez-moi qu'elle n'était pas belle seulement. Parce qu'il y avait un prix à payer. Joseph va être vendu par son propre sang. Est-ce que tu as déjà été trahi par des propres membres de ta famille ? Trahi financièrement au moment de discuter de l'héritage. Trahi relationnellement quand il s'agissait d'être bienveillant et que tu as été toxique ou tu as été intoxiqué. Joseph, c'est un croyant qui va être vendu par ses frères. Dans le Nouveau Testament, on a aussi des chrétiens qui ont été trahis par leurs frères. Et pourtant, la Bible nous dit que Joseph va finalement être élevé à une position de pouvoir en Égypte et l'esclave deviendra le sauveur de ses frères. Pourtant, l'amour de Dieu n'a pas semblé à certains moments aller dans le sens de Joseph. Ok, vous allez me dire, ok, ça c'est l'Ancien Testament, c'est l'Ancienne Alliance, c'est très très loin de nous. Intéressons-nous aux chrétiens, aux premiers chrétiens, dans la deuxième partie de la Bible, le Nouveau Testament. Il y a une lettre, quand j'ai étudié la théologie, quand je suis parti au CTS, donc une faculté de théologie, une école biblique, je pensais connaître l'Épître aux Hébreux, la lettre aux Hébreux. Je pensais vraiment, je l'avais lu au moins 3-4 fois avant d'y aller. C'est bon, je maîtrise. Je ne maîtrisais rien du tout. J'étais passé à côté d'un message très fort. J'étais resté fixé sur le fait que la lettre aux Hébreux nous parle du sacrifice de Jésus et de la puissance du sacrifice de Jésus. La lettre aux Hébreux nous parle aussi des héros de la foi, de la puissance de la foi, un cadeau que Dieu a déposé dans notre cœur. Et pourtant, cette lettre, l'auteur, on ne sait pas exactement qui c'est, à la fin va dire « Je t'écris cette lettre d'exhortation ». Et dans l'original, la lettre d'exhortation, ce n'est pas juste « Je te caresse dans le sens du poil ». C'est une lettre qui va te challenger dans tes convictions, qui va te bousculer dans ta foi. La lettre aux Hébreux est écrite à des chrétiens qui sont éprouvés. Elle aurait été écrite entre 60 et 70 après Jésus-Christ, certainement avant la destruction du temple. Les destinataires de cette lettre sont des chrétiens qui subissent de lourdes pressions sociales, des pressions financières, des pressions même physiques, non seulement de la part des Romains, mais aussi des Juifs. Parce qu'il y avait, à cette époque-là, en tout cas quand on lit des preuves internes à cette lettre, on se rend compte qu'il écrit beaucoup à des chrétiens qui étaient avant des pratiquants juifs, de religion juive. Et à un moment donné, ils ont abandonné l'ancienne alliance pour entrer dans la nouvelle alliance. Et ils sont persécutés à cause de cela. C'est pourquoi d'ailleurs il y a beaucoup de mentions à des textes de la Torah. Parce que l'auteur veut les encourager pour dire « Mais non, vous qui vous êtes donné à Christ, vous êtes la continuité du plan divin de Dieu au travers d'Israël. » Mais leur foi va les emmener à être persécutés par le peuple que Dieu a choisi pour que le Messie vienne. Allez chercher quelque chose là-dedans. J'aimerais lire avec vous un passage qui est vraiment, vraiment fort et qui peut nous donner un renouvellement par rapport à l'amour de Dieu. C'est dans Hébreux, le chapitre 11, les versets 32 à 40. Je lis avec vous. Que dirais-je encore ? Le temps me manquerait si je voulais vous parler en détail de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephté, de David, de Samuel et des prophètes. Vous avez vu, plein de références à l'Ancien Testament. Soutenus par leur foi, ils ont conquis des royaumes. Amen. Ils ont conquis des royaumes, ils ont exercé la justice, ils ont obtenu la réalisation de leurs promesses. Amen. Fermer la gueule au lion, éteint le feu ardent, échapper au tranchant de l'épée, que de miracle sur miracle, triompher de la maladie, amen. Ils sont devenus forts et ont fait preuve de vaillance dans les batailles, mettant en fuite des armées ennemies. Des mères ont vu leurs enfants morts ressuscités pour leur être rendus. Waouh ! D'autres, par contre, ont été torturés et ont refusé d'être délivrés. Car ils espéraient être amenés par la résurrection à une vie meilleure. D'autres encore ont enduré les moqueries, le fouet et même les chaînes et la prison. Ils ont été lapidés, torturés, sciés en deux ou mis à mort par l'épée. J'entends pas beaucoup d'amen. Certains ont dû mener une vie errante, allant ça et là, plus de maison. Financièrement, c'est le chaos, c'est dur. Couverts de peau de mouton ou de chèvre, dénués de tout. Persécutés et maltraités par un monde indigne d'eux. C'est pas eux qui étaient indignes du monde, c'est le monde qui était indigne d'eux. Ils ont erré dans les déserts et sur les montagnes, se réfugiant dans les cavernes et les antres de la terre. Dieu, écoutez bien ça parce que c'est la clé de ce texte qu'on vient de lire. Dieu a rendu à la fois des hommes qui ont vécu des miracles un excellent témoignage, tandis qu'à ceux qui sont morts, qu'ils n'avaient pas la foi. Ah non, 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 c'est pas ça, pardon, excusez-moi. Dieu a rendu à la foi de tous ces hommes, autant ceux qui ont vécu le miracle que ceux qui sont passés par la consolation. Dieu a rendu à tous ces hommes un excellent témoignage, pas juste un témoignage, C'est-à-dire que, comprenez bien là, ceux qui ont refusé d'être délivrés parce qu'ils espéraient dans la résurrection finale, Dieu leur rend un bon témoignage. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas prié pour être délivrés. Le bien-être est important. Mais là, il est en train de toucher à autre chose que le bien-être. Et c'est dur de le comprendre. Et je vous prêche un message que je ne comprends pas tout non plus. Mais je vais essayer de vous le prêcher avec la foi. Dieu a rendu à la foi de tous ces hommes et ces femmes un excellent témoignage. Et cependant, aucun d'eux n'a vu se réaliser ce qui leur était promis. Aucun d'eux. Autant ceux qui ont vécu des miracles, qui ont conquis des royaumes, que ceux qui sont passés par la consolation parce qu'ils ont perdu quelqu'un ou parce qu'eux-mêmes sont morts, aucun d'eux n'a vu se réaliser ce qui leur était promis. Autrement dit, ils n'ont pas vu tous les exaucements à leurs prières. L'amour de Dieu ne semblait pas toujours aller dans le sens des premiers chrétiens. Et ce qui est tragique dans tout ça, c'est qu'à cette époque, ils vivaient une période de réveil spirituel. Les premières années de la vie de l'Église sont des périodes de réveil puissant spirituel. Des centaines et des centaines de personnes se tournent à l'Évangile. De plus en plus de conversions à Christ et de plus en plus de persécutions à cause de Christ. Il y a même un père de l'Église qui s'appelle Tertullien, c'était un théologien, un écrivain du IIe siècle, il dira ceci. « Le sang des martyrs chrétiens est une semence pour l'Église. Le sang des chrétiens est une semence pour l'Évangile. » Quand il y a souffrance, on peut légitimement se poser la question. Quand on lit les Hébreux, quand on lit ce qui se passe, quand tu lis ta vie, tu peux te poser cette question. Mais Dieu, est-ce que tu ne serais pas un Dieu qui est méchant? Un Dieu dur? Un Dieu qui prend plaisir à ma souffrance? Pourquoi? Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé cette question, dire « Mais Dieu, mais où est ta bonté ?» Je ne comprends plus ce qui m'arrive, je ne sais même plus qui tu es. On m'a dit que tu étais bon, j'ai chanté ta bonté, mais ce que je remarque dans ma vie aujourd'hui, c'est que je n'arrive pas à saisir ta bonté du tout. Tu es bon pour les autres, tu es méchant pour moi. Vous savez, quand on commence, et quand je commence personnellement à me poser des questions aussi profondes, aussi complexes, ou que alors on me pose ces questions quand on va visiter quelqu'un, quand vous mangez chez quelqu'un et que cette personne vous annonce une terrible nouvelle qui touche à des souffrances que juste la personne peut saisir et toi t'es juste là à fermer ta bouche parce que tu te dis punaise. Quand on touche à la profondeur de pourquoi ma souffrance, pourquoi on dit que Dieu est amour, pourquoi je me suis converti sur cette base que Dieu m'a tant aimé qu'il a donné son fils unique et que quand je deviens chrétien parfois c'est encore pire que quand je ne l'étais pas. Pourquoi ? Vous savez, quand on se pose ce genre de questions très profondes, et vous allez y être confronté, vous, ou des personnes que vous aimez, ou des personnes que vous allez rencontrer, il y a trois réponses. Je voudrais vous soumettre trois réponses qu'en général on peut apporter à cette souffrance-là. La première réponse, je l'ai appelée la réponse prématurée. C'est prématuré. Je donne une réponse qui est trop rapide, qui est prématurée. Cette réponse, c'est que j'essaye de justifier le fait que, ok, c'est quoi, Dieu est amour, remets pas ça en question, d'accord? Mais tu comprends, le fait que tu souffres, c'est certainement parce que Dieu veut t'apprendre quelque chose. Tu sais, si tu souffres là, c'est peut-être que ton cœur, il est pas si bon que ça. Tu sais, si tu souffres, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faut changer dans ta vie, il y a peut-être un péché caché, tu sais. Que Dieu nous pardonne si un jour nous avons parlé comme ça à quelqu'un qui était en crise. Parce que cette réponse-là, elle est prématurée. Ce n'est pas que c'est pas vrai ou que c'est vrai, c'est pas faux en soi, ça se défend. L'action positive de la souffrance, ok, dans le temps en plus, ok. Mais la souffrance, elle a parlé à des personnes, elle parlera à des personnes, mais elle n'apaisera pas cette manière de répondre à quelqu'un avec la souffrance, ça ne va pas apaiser tout de suite son cœur. Ça ne va pas tout régler tout de suite, surtout quand on est dans une gestion de crise. Là, c'est le cœur du pasteur qui va parler à l'église. Soyons une église qui sait discerner quand on est dans des gestions de crise, et qu'on sache mettre un frein à notre langue au bon moment. Il y a un bébé qui dit « Amen », mais vous, pas trop là. Hein ? Lui, il est avec moi là-bas. Là. Non, 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 maman, tu restes parce que lui, il m'encourage. Hein ? Tu restes, maman, je te le dis, lui, il m'encourage. Les bébés seront toujours les bienvenus à l'épi. Amen. La réponse prématurée. Parfois, c'est trop rapide. On déverse notre connaissance, on déverse notre expérience, on déverse notre révélation. C'est trop rapide. Quand on est dans une gestion de crise, c'est peut-être ce genre d'approche-là, c'est peut-être dans un deuxième ou dans un troisième temps. Parce que des fois, on ramasse des gens à la petite cuillère. Parce que la nourriture qu'on leur a donnée était trop dure pour l'instant de crise. Et ma prière, c'est qu'on soit une église qui soit connue pour être une église qui accompagne. Qui accompagne. Il y a une deuxième réponse. Il y a la réponse prématurée, mais il y a aussi la réponse fataliste. Même si la Bible dit tout le contraire, même si mes expériences du passé avec Dieu me disent tout le contraire, aujourd'hui, je me résous à croire que le Dieu de la Bible m'abandonne. Que le Dieu de la Bible est mauvais. Il est bon pour les autres, il est mauvais pour moi. Je me laisse tout doucement remplir par une déception de Dieu. Ça m'envahit et ça commence à éteindre ma foi. Cela peut même arriver à des chrétiens de sombrer dans le fatalisme. Ça peut même arriver à des chrétiens. Et à ce moment-là aussi, il faut qu'on soit rempli du Saint-Esprit, de la sagesse de Dieu. Parce qu'un chrétien qui est en train de sombrer dans le fatalisme, c'est un chrétien qui n'a pas besoin qu'on lui réexplique pour la énième fois tel ou tel verset biblique. C'est un chrétien qui a besoin que tu te mettes à genoux avec lui et que tu commences à pleurer avec celui qui pleure. Pleurer avec celui qui pleure. Le pouvoir de la vie et de la mort sont au pouvoir de la langue. Un chrétien en crise, un chrétien en souffrance, c'est pas systématiquement un chrétien qui a un problème. C'est un chrétien qui fait face à un problème, mais il n'est pas forcément le problème. Et cette notion de fatalisme peut toucher tous les chrétiens. Mais ce qui est fort avec Dieu, c'est que dans sa fidélité, Dieu a fait une alliance avec les enfants de Dieu. Dieu a fait une alliance et à un moment donné, il y a cette présence de Dieu qui éveille en lui, dans le chrétien, qui éveille un instinct spirituel, qui va le pousser à un déclic. Et c'est ce qui se passe. Combien ont vécu des souffrances, des épreuves et Dieu les a relevés. Levez la main, juste pour témoigner de la fidélité de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, il y a la présence de Dieu qui vous éveille à un déclic. Le chrétien ne se tourne plus vers des hommes de foi, des femmes de foi, des bons conseils. Les chrétiens vont se tourner dans la présence de Dieu. Ils vont s'abandonner dans la présence de Dieu. Ils vont vivre un déclic à un moment donné. Leur âme va s'ouvrir et là, Dieu va parler à son cœur. Dans le désert, Dieu va parler dans le cœur du chrétien et va lui dire cette phrase, « Je suis avec toi. Je suis avec toi. » Là, ça ne sera plus la parole de quelqu'un, ça sera la parole de Dieu. Ça, c'est la bonté de notre Dieu. À un moment donné, le chrétien vit dans la présence de Dieu. Ce déclic spirituel. Et en traversant la souffrance, le chrétien va regarder à ce que Jésus lui-même a souffert. Et c'est pourquoi il y a une troisième réponse, il y a une troisième option. C'est la réponse de la foi, la réponse de l'espérance. Je peux poser un autre regard sur la situation en regardant à la souffrance de Jésus. Je n'ai pas toutes les réponses et ça c'est ok. Parce que je me rappelle que d'après ce que j'ai appris dans la Bible, quand tout allait bien, il vaut mieux apprendre des leçons quand tout va bien. Ça vous aidera pour après. Jésus, je me souviens que Jésus, Dieu qui s'est incarné en homme, a lui-même souffert d'une souffrance extrême. Laissez-moi vous rappeler au moins trois domaines dans lesquels Jésus a souffert pour nous. La souffrance psychologique, le rejet, l'insulte, l'humiliation, les commérages. On a mal parlé sur Jésus. La souffrance physique, la faim. Et vers la fin de sa vie, des coups, des clous, la croix, l'étouffement. Peut-être une dimension qui est la pire de toutes pour Jésus, la dimension de la souffrance spirituelle, des tentations dans les pensées, des oppressions démoniaques, des poids spirituels, le poids de mon péché, de votre péché. Le poids spirituel de toutes nos maladies. Il en viendra même à un moment donné où Jésus, en priant, la Bible dit qu'il y avait comme des grumeaux de sang, tellement le combat spirituel faisait rage. Parce que pour la première fois de sa vie, il savait qu'il allait être séparé de la présence de son Dieu alors que lui-même n'avait rien fait. Jésus ira jusqu'à faire cette prière profondément humaine et profondément spirituelle. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? C'est notre Seigneur, notre modèle, notre excellence qui a fait cette prière. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et tu penses que toi, en criant ta colère à Dieu, Dieu te condamnerait ? Jésus est venu souffrir la croix pour nous donner une autre perspective de vie. Cette vie sur terre est un chapitre de notre vie. Ce n'est pas l'histoire de notre vie. Cette vie sur terre est un chapitre de notre vie. La mort de Jésus à la croix nous ouvre un chemin d'éternité. L'éternité avec Dieu, c'est ça notre véritable histoire. L'éternité avec Dieu. Mon frère, ma sœur, ton histoire n'est pas ton épreuve de maintenant. Ton histoire, c'est que tu es dans l'éternité déjà aujourd'hui avec ton Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qu'il faut redire à notre âme. Et qu'il faut redire à notre âme, c'est ça qu'il faut confesser. Mon âme, bénis l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Dieu est devenu le Sauveur souffrant pour que nous n'ayons pas que la souffrance comme perspective, mais que nous ayons l'éternité. Alors je te le redis pour finir, tu n'es pas une mauvaise chrétienne. Tu n'es pas un mauvais chrétien. Il est totalement compréhensible que nous nous demandions pourquoi certaines choses se produisent, pourquoi l'amour de Dieu ne semble pas aller dans mon sens. C'est profondément humain de chercher des réponses, c'est profondément spirituel que de chercher Dieu dans notre épreuve. Et en cherchant Dieu, ben nous cherchons des réponses. C.S. Lewis, qui est un écrivain et un théologien chrétien du XXe siècle, dira ceci en parlant de la souffrance du temps présent. Dans Romains 8, 18, il dira « Les souffrances du temps présent ne sont rien en comparaison de la gloire qui doit nous être révélée. » Et en citant Romains 8, 18, il dit ceci « Ce n'est pas seulement une affirmation abstraite. Elle signifie que les souffrances et les angoisses que nous éprouvons en ce moment sont le creuset où Dieu travaille notre transformation en vue de la vie éternelle. Rien n'est perdu. Les difficultés de la vie présente, aussi douloureuses soient-elles, n'ont pas d'importance en comparaison avec les joies de l'éternité. » Alors si nous sommes là, nous avons la possibilité de prendre le temps de nous souvenir de la joie de l'éternité, c'est ce qu'on va faire dans un instant. Laisse-moi te dire ceci, quand tu penses ou dis à Dieu ton incompréhension, ta déception, ta souffrance, ta colère, tu n'es pas en train de pécher contre Dieu, tu es en train d'emprunter un chemin de guérison avec Dieu. Celle-là, elle était bonne, je vais la répéter parce que je pense qu'avec la chaleur, vous avez... Et vous aussi en ligne, là, vous avez regardé à gauche et à droite, je vous la redis là. Quand tu penses ou dis à Dieu ton incompréhension dans la prière, dans les chants, dans ton cœur, dans tes pensées, quand tu lui dis ta déception, ta souffrance, ta colère, tu n'es pas en train de pécher contre Dieu. Tu es en train d'emprunter le chemin de la guérison. Je suis tombé il y a quelques semaines sur un témoignage que je vais vous projeter maintenant. Ce témoignage est poignant et il est fort, mais il reflète parfaitement le cheminement d'une chrétienne qui traverse la souffrance et qui, au travers de la souffrance, va apprendre, va s'appuyer, va faire des erreurs. Cette femme s'appelle Hélène et c'est une maman qui va être éprouvée par la perte de son premier enfant. On va regarder ce témoignage ensemble et puis on prendra le temps de prendre le temps de parler à Dieu chacun pour soi.
Bonjour, mon nom c'est Hélène et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de ma renaissance. Moi j'ai grandi dans une famille qui n'est pas chrétienne, on ne parlait pas de Dieu à la maison. Pourtant, j'ai toujours eu cette conviction depuis que je suis vraiment toute petite que Dieu existe, que je lui parlais, mais c'était quand même une relation très distante. Je n'avais pas en fait cette conception de vraiment... vivre avec Dieu tous les jours. En octobre 2018, j'ai accouché de mon petit garçon, Toumaï. Donc pareil, beaucoup de bouleversements. Maman pour la première fois, mais Dieu toujours dans sa bulle, mais sans plus. Puis, en avril 2019, mon petit garçon commence à être malade. On arrive à l'hôpital, puis on nous annonce qu'il a une tumeur dans le cerveau et qu'il faut opérer tout de suite. Je me souviens m'être assise, puis m'a dit, là, il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose. Je veux dire, même moi qui, jusqu'à présent, je pensais à Dieu un peu comme ça, de façon floue, je l'ai ressenti ce soir-là. Je me suis dit, non, là, ce soir, il n'y a que Dieu qui peut faire. Fait que j'ai contacté une amie. J'avais une amie, en fait, que je connaissais déjà depuis plusieurs années à Montréal. Mais ça faisait quelques mois qu'elle me disait qu'elle allait à l'église le dimanche. C'est comme si il y a quelque chose qui m'a dit, mais écris-lui à elle parce qu'elle, elle va vraiment prier. Fait que là, on a commencé des longs mois de traitement. On a passé un mois aux soins intensifs. Et avec cette amie, on priait beaucoup. Moi, c'est la première fois que je priais comme ça aussi intensément. La tumeur était tellement grosse que le chirurgien n'a pas pu opérer en une fois. Il a fallu qu'il fasse deux opérations. Malgré ça, en fait, malgré toute la difficulté, ça se passait un petit peu parfaitement, j'ai envie de dire. Il n'avait pas tant de séquelles que ça, il n'avait pas tant d'effets secondaires. Puis j'avais donc mon amie avec qui on priait, qui m'a fait rencontrer une autre personne qui je considère un peu comme une grande sœur spirituelle, qui était une chrétienne plus mature, avec qui on priait beaucoup. Donc cette grande sœur spirituelle, un jour, me dit qu'elle a reçu le message et que mon fils, il est guéri. Donc moi, dans tout ça, ça m'encourageait beaucoup. Donc c'était vraiment difficile de passer à travers tout ça, de voir son enfant passer à travers la chimio. Il vomissait, il perdait ses cheveux, il avait plus de sourcils. Puis ça, c'est des petits effets qu'on voit. Mais malgré tout ce qui était difficile, je m'accrochais beaucoup à cette promesse qu'elle avait reçue de la guérison de mon fils. Donc on a eu 9 mois de traitement en janvier 2020. On a fini les traitements. Donc là, on commence comme une deuxième phase où c'est la maintenance, entre guillemets. On fait des examens tous les 3 mois pour s'assurer que la tumeur ne revient pas. 2020, pour la plupart des gens, c'était une année horrible à cause de Covid. Tout le monde se plaint 2020. Puis nous, ça a été comme la meilleure année possible avec notre petit garçon. Il allait bien, il grandissait, il faisait des progrès. Toutes les petites choses qui avaient été affectées dans son développement à cause des traitements, ben, il retrouvait un petit peu tout. Il a commencé à marcher, puis il a commencé à garderie. Pour nous, c'était vraiment des moments super de le voir. Vraiment un enfant normal. Première fois que j'ai découvert la chapelle, moi, c'était à la célébration de Pâques en 2019. Donc j'étais vraiment toute nouvelle dans la foi. Je n'avais même pas, en fait, vraiment techniquement donné ma vie à Jésus, parce que je ne savais même pas qu'est-ce que ça voulait vraiment dire, donner sa vie à Jésus. Mais très tôt, j'ai su aussi que je voulais me faire baptiser. C'était comme une évidence pour moi. Je sais qu'il y a des gens, ça leur prend du temps, puis... Moi, ça a été assez rapide, à la fin des traitements de mon fils, que je savais, OK, c'est une évidence pour moi, il faut que je me fasse baptiser. Et 20 jours après, je pense une vingtaine de jours après mon baptême, mon papa est décédé du cancer. Et 3 jours après, on m'a annoncé que mon fils, sa tumeur était revenue aussi. Et là, j'ai pas compris. J'ai pas compris parce que je me disais, ben, Seigneur, je comprends pas, t'as donné une prophétie. Il était guéri. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que t'as menti? Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. Fait que, autant ça a été difficile, l'annonce du diagnostic la première fois, autant la deuxième fois, ça a été la descente au fond du fond du fond. Parce que je savais que. Quand ça revient et que ça revient aussi vite, ben c'est moins. Les options sont limitées. Effectivement, nous, on ne pouvait plus opérer. On ne pouvait pas faire de chimio. La seule chose qu'on pouvait faire, c'était de la radiothérapie. Après ces traitements de radiothérapie, en fait, tout s'est dégradé assez vite. Et plus ça allait mal, plus on me disait non, mais ce n'est pas grave, c'est rien, ce sont des attaques. Mais Jésus a déjà guéri, j'ai reçu les messages, il est guéri. Puis elle me disait, j'ai reçu d'autres messages qu'il est guéri. Donc comme plusieurs messages. Et c'est sûr que, autant je voyais la réalité que ça allait de plus en plus mal, autant je pense que ma chair, elle avait besoin de s'accrocher à ça. Elle avait besoin de... Dieu, il savait que j'avais besoin de ça pour pouvoir continuer à avancer, pour pouvoir continuer à être forte pour mon fils, à ne pas m'écrouler, puis à pouvoir l'accompagner en fait dans toute sa maladie. Dans le même temps, pendant que mon fils finissait ses traitements de radiothérapie, j'ai réalisé que j'étais enceinte et que j'attendais un deuxième bébé. Puis je me souviens m'être dit, mais Seigneur, c'est comme le pire moment. Pourquoi ça arrive maintenant? Et dans ma tête, je n'avais pas d'option. Je savais que ce bébé, je le garderais. Il était là pour une raison. Mais je disais, mais là, ce n'est pas le moment du tout. Là, ça ne marche pas. On est en plein traitement. Mon fils, il ne va pas bien. Je ne peux pas gérer un deuxième enfant. Et au mois de septembre 2021, je me souviens, un matin, on avait rendez-vous à l'hôpital pour un rendez-vous de suivi. Puis ce matin-là, je dormais avec mon fils dans mes bras. C'était assez rare que je dorme avec lui dans mes bras parce que rendu là, j'avais quand même déjà mon ventre, puis c'était pas facile pour moi, mais ce matin-là, pour une raison que Dieu seul connaît, il dormait dans mes bras. Puis je me souviens, j'étais un petit peu entre le réveil et le sommeil, j'étais comme pas tout à fait encore consciente, puis je vois comme une sorte de feuille ou de pancarte, puis je vois écrit psaume 116, verset 8. Puis le psaume 116, verset 8, c'est un psaume qui dit « Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. » Et quand j'ai lu ça, je me suis dit oh, « Oui, c'est ça, il va être guéri, il a délivré son âme de la mort, c'est-à-dire qu'il va être guéri. » Donc effectivement, elle a dit vrai, il est guéri. Puis là, ça m'a beaucoup encouragée. Sur le moment, j'avais encore cette vision vraiment d'un évangile où que la parole est vraiment un peu terre à terre, de prendre les choses vraiment très... de la façon qu'on a envie de les entendre, finalement. Et quand j'ai reçu ce psaume-là, je ne savais pas encore que deux jours plus tard, on allait se retrouver aux soins intensifs avec mon fils pour ce qui serait son dernier passage à l'hôpital. C'est ça, deux jours plus tard, il a eu des difficultés respiratoires. On a dû aller à l'hôpital parce qu'il n'arrivait plus à respirer sans oxygène. Donc on est arrivé à l'hôpital. J'étais enceinte de 38 semaines. Puis il avait besoin d'oxygène, puis on ne comprenait pas trop qu'est-ce qui se passait. Donc on est resté à l'hôpital pendant quasiment un mois. Et je me souviens, je continuais à prier avec cette personne, on priait, puis tu sais, non seulement il ne pouvait plus marcher, se tenir assis, mais là, il ne pouvait même plus respirer sans oxygène. Puis au fur et à mesure des jours qui passaient, il ne pouvait plus non plus s'alimenter par la bouche. J'ai eu un moment où je me suis dit, je crois que Dieu est capable, je sais qu'il peut le faire, mais il faut que je regarde aussi la vérité en face. Ça n'a pas l'air d'être un petit garçon qui est en train d'être guéri. Et je me souviens avoir écrit à cette personne en lui disant « Je pense qu'on va commencer à prier pour la volonté de Dieu. » Parce que de toute façon, c'est sa volonté qui sera faite. Et effectivement, quelques jours plus tard, on fait un IRM de suivi, puis on a 8 médecins qui arrivent dans la chambre pour nous annoncer qu'il ne nous reste que quelques jours, peut-être quelques semaines avec notre fils. Et là, j'avais toujours en moi cette espèce d'espoir que non, maintenant que l'homme ne peut plus rien faire, là, Dieu va nous montrer. Peut-être c'est justement Dieu attendait que l'homme ne puisse plus rien faire pour nous montrer lui son miracle et que là, il va se révéler et que ça va aller. J'avais quand même encore cet espoir. Je pense que Dieu m'a donné cet espoir à ce moment-là pour continuer à me battre jusqu'à la fin. Donc on est rentré à la maison le 21 octobre. On a fêté son anniversaire le 23 et le 25 octobre. Il est décédé. Et quand il est décédé, je comprenais pas en fait. J'ai juste pas compris pourquoi ça arrivait. J'ai pas compris pourquoi Dieu a dit qu'il allait être guéri et qu'il n'était pas. J'ai passé les premiers mois de mon deuil à pleurer mon fils, mais aussi à me dire, ben, est-ce que j'ai fait quelque chose que j'aurais pas dû faire, ou est-ce que j'ai pas fait quelque chose que j'aurais dû faire, pourquoi Dieu a changé d'avis, est-ce que c'est de ma faute? Ma foi a été énormément remise en question. Et à côté de ça, je me souviens quand même du psaume 116, verset 8. Tu as sauvé mon âme de la mort. Et les mois qui ont suivi, Je pense que je suis rentrée en mode un peu obsessionnel à relire ma parole. Puis je me souviens avoir lu, avoir fait des recherches sur ce psaume-là. Puis le psaume 116 fait partie des psaumes Hallel, qui sont des psaumes qui étaient chantés par les Juifs le soir de la Pâque. Jésus a chanté ce « Tu as sauvé mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute ». Jésus a chanté ses propres mots la veille de sa crucifixion. Il savait qu'il allait vers la croix. Malgré tout, il a chanté ces mêmes mots-là. Puis ça m'a tellement encouragée à me dire ben, « Oui, effectivement, il a sauvé mon âme de la mort. Il a sauvé l'âme de mon fils de la mort. » Je pense que Thomas et sa mission, c'était vraiment de faire rentrer Jésus à la maison. Thomas, ça veut dire espoir de vie. Puis je pense que Jésus l'a utilisé pour nous donner l'espoir de la vie, mais la vraie vie, la vie éternelle. Oui, il veut qu'on soit béni sur terre, mais je pense que c'est notre âme qui m'intéresse le plus. Tout ce qu'on peut vivre ici comparé à l'éternité, quand mon fils est né, avec sa maladie, j'ai rencontré Jésus. Donc un Jésus que je ne connaissais pas du tout, mais là je l'ai rencontré. Mais avec sa mort, j'ai vraiment connu qui est Jésus. Le vrai Jésus, pas le Jésus de l'évangile de prospérité. Et je pense que le Seigneur savait que pour venir me chercher, il fallait qu'il y ait vraiment une tragédie qui se passe dans ma vie, quelque chose de vraiment profond qui allait me faire dire « Ok, j'abandonne tout, puis je te donne tout ». Même dans les pires moments, ma fille est née 2 semaines avant que mon petit garçon décède. Ils ont pu se connaître pendant 2 semaines, puis elle a apporté énormément de lumière dans cette période qui a été extrêmement difficile. Si elle n'avait pas été là, je ne sais pas où est-ce qu'on en serait aujourd'hui. C'est vrai que des fois, quand on regarde mon histoire, on pourrait se dire « Dieu n'a pas fait le miracle », puisque le miracle, souvent, ce qu'on va se dire, c'est « Est-ce qu'il a guéri physiquement quelqu'un ?» Puis moi, je n'ai pas une guérison physique. Mais je pense que le miracle que Jésus il a fait pour moi, il va au-delà de ça. Ce n'est pas un miracle qui s'arrête sur terre, c'est un miracle qui transcende dans l'éternité. Puis ça n'a pas de prix.
C'est un témoignage qui est fort. On ne veut pas juste surfer sur des émotions, on veut juste prendre le temps dans la présence de Dieu. Dieu ne nous a pas donné plusieurs fois. Dieu nous a donné la foi. La foi de croire dans le Dieu des miracles. Et rien ne nous empêche ce matin, et rien ne va nous empêcher de prier pour le miracle. Et Dieu ne nous a donné pas une autre foi. Il nous a donné la même foi pour que nous puissions être une église qui, dans le monde spirituel, comme sur Strasbourg, soit appelée une église de compassion. Une église de consolation. Il n'y a pas plusieurs fois, il y a la foi. J'aimerais vous proposer de vivre un temps de cœur à cœur avec Dieu. Il y a peut-être 3 types de prières qu'on peut faire monter à Dieu. Je vous les soumets. La première, c'est que tu es dans la souffrance. Et que tu es tiraillé avec le fait de dire « Mais j'ai pas envie de dire à Dieu combien j'en ai marre de ma vie. Combien je ne veux même plus de cette vie. Combien je lui en veux encore de ne pas avoir répondu à ma prière. Combien tout ce qui m'arrive aujourd'hui, mine de rien, l'amour de Dieu, il n'est pas pour moi. Je suis en colère. Je suis énervé. Je perds pied. J'ai plus la foi. Je viens. Je souris. Je chante. Mais la flamme au-dedans de moi, c'est devenu une petite flamèche. » Et vous savez quoi? Le Saint-Esprit est là. Et il y a moyen maintenant de prendre un temps où dans votre cœur, vous qui êtes éprouvé, vous qui avez cette lutte intérieure, c'est peut-être le jour où vous allez emprunter le chemin de la guérison et de la reconstruction. Alors on peut être dans un temps juste de recueillement, de prière. Juste nous demander à chacun de respecter ce moment. Il y a des temps maintenant de cœur à cœur avec Dieu. Tu es en combat avec un péché. Et tu dis, mais je m'en sortirai jamais. Tu es encore en deuil. Tu dis, je vais jamais remonter la pente. T'en as marre de l'hypocrisie, la façade. T'as même plus à te regarder dans la glace parce que t'en as juste trop marre. T'as même plus envie de lire la Bible parce que t'en as juste trop marre. Tu peux, dans la présence de Dieu, là, maintenant, en ton âme, avec tes mots, dire, Jésus, j'en ai marre de fuir. Dans mon âme, dans ton cœur, dans tes pensées, tu peux dire, Jésus, j'en ai marre. Tu peux même le dire avec des murmures. Mais Jésus te cherche ce matin. Le Saint-Esprit cherche ton cœur ce matin. Parce qu'il veut libérer ton âme de la mort que procurent les pensées toxiques. Les pensées de mort. Jésus veut les briser maintenant. Et ça démarre avec l'abandon de ton âme. Alors dis-le à Dieu. Cette perte, Seigneur, j'en veux au monde entier, je m'en veux à moi, je t'en veux à toi. Je te remets cette perte entre les mains. Je dépose ma colère dans ta présence. Dis-le à Dieu. Et au fur et à mesure que tu pries, tu vas voir comme si ton âme, elle est plus légère. En fait, tu es en train de vivre la libération que le Saint-Esprit est en train d'opérer dans ta vie là maintenant. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes qui sont en train de te dire toute leur souffrance maintenant. Nous prions, non pas dans notre puissance, non pas sur un témoignage, non pas sur quelqu'un, sur une compréhension. Nous prions dans le nom de Jésus. Nous prions le roi des rois, le seigneur des seigneurs, celui qui est au contrôle de toutes choses, celui qui a tout pouvoir. Oui, on sait, souvent on dit, le monde gît sous la puissance des ténèbres, mais ça ne veut pas dire que Jésus est vaincu. Au contraire, c'est Jésus qui est le maître des temps. C'est Jésus qui est le maître des circonstances. C'est Jésus qui est le Seigneur des seigneurs sur ce monde et sur mon monde. Sur les circonstances mondiales, Dieu est au contrôle. Sur les circonstances de ma vie, Dieu est au contrôle. Seigneur, envoie un baume de guérison maintenant. Nous te prions pour une guérison qui s'enclenche maintenant dans le nom puissant de Jésus. Nous te prions, Seigneur, pour un chemin de guérison. Et nous attendons à des témoignages qui viendront quand tu l'auras décidé. Mais des témoignages de vie guérie, d'âme guérie, de foyer guérie, de relations guéries, d'église guérie. Seigneur, envoie, s'il te plaît. On dit souvent, envoie ta puissance. Eh bien, ce matin, ta puissance, c'est un murmure doux et léger qui rappelle à quelqu'un, c'est bien mon fils, c'est bien ma fille. J'entends ta colère et je ne te rejette pas. Fais ton œuvre. Fais ton œuvre, Seigneur. Nous aimerions nous adresser à quelqu'un, peut-être vous en ligne. Et vous allez bien aujourd'hui. Vous êtes en love, comme on dit, avec Jésus. Ça se passe bien au travail, ça se passe bien dans le couple. Et nous, on veut juste dire ceci, merci Seigneur. Merci pour ta fidélité. Mais je voudrais m'adresser à vous qui allez bien aujourd'hui. Emmagasinez cette bonté et serrez-la dans votre cœur, s'il vous plaît. Serrez la bonté de Dieu. Dites à votre âme, mon âme, je te bénis parce qu'aujourd'hui, je vais bien. Mon âme, je veux aujourd'hui, quand je vais bien, me souvenir que Jésus, tu es mort à la croix pour moi. Alors prends le temps ce matin de faire cette prière à Dieu, de dire, Seigneur, je te remercie parce que je vais bien. Je suis reconnaissant pour ta fidélité aujourd'hui et je veux emmagasiner l'espérance que tu me donnes. Je veux emmagasiner tes promesses. Je veux m'équiper pour demain. Je veux me reposer aujourd'hui pour les combats de demain, Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit, de conduire un homme, une femme, un couple, une famille, un jeune, à pouvoir dire à son âme, « Mon âme, bénis l'Éternel aujourd'hui. N'oublie aucun bien, n'oublie aucun de ses bienfaits aujourd'hui. Mon âme, je te le dis maintenant, arrête de dormir et bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. » Et enfin, j'aimerais inviter quelqu'un pour qui l'éternité, c'est pas très très clair. Quelqu'un qui est rentré dans ce lieu sans Jésus et qui va repartir de ce lieu avec Jésus. Quelqu'un qui est venu dans ce lieu sans espérance face à la mort, sans espérance face à la violence de la vie et qui, par la grâce de Dieu, va repartir avec une espérance. Il y a ici des personnes qui ont besoin de faire une réconciliation avec Dieu, qui ont besoin de dire « Jésus, maintenant je te livre ma vie, je t'abandonne ma vie, c'est fini une vie sans Dieu au centre, maintenant je veux Dieu au centre, maintenant je veux vraiment m'engager, je veux vraiment te livrer ma vie, je suis pas parfait, je serai pas demain, mais toi tu es parfait Seigneur. » Alors si tu es concerné par cet appel du ciel, la croix t'appelle, la croix de Jésus t'appelle, l'œuvre de la croix de Jésus t'appelle à dire « maintenant c'est le moment de faire un demi-tour à une vie sans Jésus et de commencer sérieusement, profondément, un cheminement avec Dieu. » Alors si c'est ton cas, la Bible dit ceci, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu es sauvé, tu es réconcilié. Alors si c'est ton cas et tu es rentré sans Jésus dans ce lieu, mais aujourd'hui tu saisis qu'il n'y a plus moyen d'envisager ma vie sans Jésus, je t'invite à faire cette prière dans ton cœur, avec ta bouche, comme tu le sens, mais une prière profonde, une prière sincère, une prière de repentance, c'est-à-dire une prière où maintenant c'est clair, le guide de ma vie, ça devient Jésus. Le Seigneur de ma vie, ça devient Jésus. Le Sauveur de ma vie, ça devient Jésus. Je ne comprends pas tout aujourd'hui, mais je sais que je ne peux pas vivre sans Jésus, sans son œuvre. Parce que je te le dis et on te le redira toujours à l'épi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a offert son Fils, son unique Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alors ce matin, tu peux faire cette prière. C'est entre toi et Dieu. Mais fais-la de manière profonde, intense, vraie. Rends-toi vulnérable en ton âme. Et si tu ne sais pas comment faire, laisse-nous en église t'emmener dans cette prière de repentance. Église, quelqu'un a besoin de vous pour faire cette prière avec lui. Parce que le « nous » est plus important que le « je » aussi. Alors église, on va pouvoir faire cette prière et répéter ensemble. Et toi, qui pour la première fois va donner ta vie à Jésus, répète avec nous cette prière. Pouvons-le dire ensemble. Seigneur Jésus, tu es vivant, tu existes, tu es amour. Je ne comprends pas tout, mais je sais aujourd'hui que je veux me repentir de mes péchés. Je veux venir vers toi, abandonner mon passé, abandonner mes péchés, et je veux venir vers toi. Je veux m'abandonner à toi. Dites-le, je veux m'abandonner à toi, te donner ma vie. Je confesse de ma bouche que tu es Sauveur et que tu es Seigneur. Et je reçois par la foi, par la confiance, ta vie éternelle. Est-ce qu'on peut applaudir Dieu pour ces personnes qui la donnent leur vie, reconnectent? À l'épi, il y a un cœur pour vous et on ne peut pas vous laisser juste repartir sans qu'il y ait un prolongement. Et pour nous, un prolongement est possible. Vous avez entendu parler qu'il y a des baptêmes. C'est une expression, c'est une étape dans la vie d'un disciple de Jésus. Et si dans ton cœur tu as fait cette prière et qu'aujourd'hui, profondément, tu veux suivre le Seigneur, on a toute une équipe qui est prête à t'accueillir au point accueil. C'est juste à 5 mètres, juste à côté, d'aller voir les personnes et de dire « ce matin j'ai prié ». J'ai donné ma vie à Jésus. Je veux être connecté à une famille spirituelle. Je veux avancer avec une famille spirituelle. Je veux apprendre de Dieu. Je veux vivre avec Dieu. Connectez-vous à l'église. On sera heureux de vous offrir une Bible si vous n'en avez pas. Et si vous êtes en ligne sur notre site internet, vous pouvez nous contacter et nous rejoindre aussi. Il y a un moyen, il y a un espace pour vous. On va finir en prière, en chantant l'amour de Dieu. Et on laisse toute la place à l'équipe. Prions comme jamais nous avons prié. Chantons comme jamais nous avons chanté. Et que toute la gloire revienne à Jésus ce matin.
Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'acclamation à Jésus dans ce lieu? Alors désolé pour les internautes, mais il y a une info super importante. On est en train de bloquer le patron de Regmaterne sur le parking qu'il nous prête. Et ça serait bien que le propriétaire d'un Dacia Duster et d'un 3008 sur le parking Regmaterne aille rapidement le déplacer pour que le patron qui nous prête gratuitement le parking ne soit pas trop embêté, qu'on n'ait pas de soucis plus tard. Merci à vous. Vraiment, merci pour ce temps. On veut vraiment vous bénir pour cette semaine. Gardez au plus profond de vos cœurs ce que vous avez entendu, que ce soit les chants, la parole, mais aussi le témoignage. Peut-être ça fait écho à des choses de votre vie. Jésus est avec vous et il chemine avec nous. Amen. Bon dimanche à chacun. Que le Seigneur vous bénisse.